Aretha Franklin, une grande artiste des États-Unis, elle est née à Memphis et elle est morte malheureusement trop tôt à Détroit. Et pour parler donc de cette exposition « America entre rêve et réalité » au Musée des beaux-arts du Québec, j'ai pensé faire tourner cette grande chanteuse. C'est présenté jusqu'au 5 septembre. Je pense que c'est une grande exposition et j'en parle avec grand plaisir avec André Gilbert, commissaire d'exposition au Musée national des beaux-arts du Québec. Bonjour, Monsieur Gilbert.
Bonjour, Madame Denis.
On décrit cette exposition comme une exclusivité mondiale. C'est impressionnant. Alors, racontez-nous un peu l'exploit qui se cache derrière la mise en place, la mise sur pied de America entre rêve et réalité.
Oui, effectivement. C'est que le Musée national des beaux-arts du Québec a collaboré avec le Hirshhorn Museum and Sculpture Garden à Washington pour mettre sur pied cette exposition. C'est donc une exposition inédite qui est présentée seulement chez nous, seulement une fois.
Et puis, est-ce que ça a été long, le processus de création, bien, les approches jusqu'à la réalisation de l'exposition?
Oh, monter une grande exposition internationale, ça prend quelques années, 2, 3, des fois 4 ans. Dans ce cas-là, je dirais que c'est 2 ans et demi de travail, effectivement. C'est pas un travail constant, mais c'est un travail régulier,
oui.
Parce que ça prend quand même un certain temps.
Alors, l'exposition s'articule autour de 7 thèmes. Est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus? 7 thèmes centraux.
Oui, effectivement. Bien, le premier thème, c'est le thème du rêve américain. Donc, le fameux mythe américain qui dit que les États-Unis sont un pays où le dur labeur est récompensé par la prospérité et l'ascension sociale. Donc, bien sûr, on sait que c'est un des mythes originaux du pays. C'est pas toujours vrai en réalité. C'est pas vrai pour tout le monde, en tout cas.
Alors, et on se demande s'il est encore bien vivant, ce rêve?
Oui, ben il est de plus en plus mis à mal, bien sûr. Et des artistes, donc, se sont beaucoup intéressés à ce thème. Ils ont contribué à le définir au départ, mais aussi à le réinventer dans les dernières années. Donc, on a toute une section d'œuvres où une série d'artistes s'intéressent à cette thématique-là, remettent en question les idéaux américains, suggèrent de nouvelles façons de concevoir les États-Unis.
Et puis, ça fait partie donc des 7 thèmes. Vous les avez tous nommés?
Non, c'est le premier thème.
Oui, c'est ça.
Par la suite, il y a tout un thème sur l'imaginaire du territoire, donc la question du paysage et du territoire. On sait comment les États-Unis sont... L'imaginaire national est conditionné par le territoire américain. Sinon, il y a aussi le spectacle de la vie quotidienne, qui est un thème qui est important pour nous et pour les artistes aussi. Mm-hmm. Les artistes américains sont bien connus pour s'intéresser au quotidien, aux choses les plus banales, aux matériaux récupérés, etc. Sinon, il y a un thème sur les révolutions technologiques. On sait comment la technologie, le progrès, l'innovation, c'est important aussi dans l'imaginaire américain. Donc, toute la question des nouvelles technologies dans l'art. Sinon, les enjeux de la mondialisation. Les États-Unis sont un pays aussi qui est né de l'immigration, on le sait. Donc, toute la question des migrations et du métissage. Donc, plusieurs thèmes, des thèmes aussi plus directement politiques. On sait à quel point les États-Unis sont marqués par des bouleversements politiques.
Oui.
C'est le cas aujourd'hui, mais ça a été le cas aussi depuis toujours. Donc, des œuvres, par exemple, en protestation contre la guerre du Vietnam ou pour mettre en valeur l'identité de groupes marginalisés ou la communauté noire. Il y a une très grande représentation d'artistes afro-américains dans l'exposition. On en est très contents. Et donc, eux parlent de leur réalité, de leur monde, de leur manière de voir les États-Unis.
Et paraît-il que c'est Mickey Mouse qui nous accueille quand on va voir l'exposition?
Oui, effectivement, c'est une œuvre qui s'appelle La souris géométrique de Claes Oldenburg. Oldenburg est un sculpteur pop. Bon, on connaît mieux les peintres pop comme Warhol.
Oui.
Oldenburg est un sculpteur pop très important dans les années 60 et 70. Et donc, il s'intéressait au thème de Mickey Mouse. Et dans le Hirshhorn, il y a toute une série de sculptures qui sont dehors dans le parc sur le National Mall à Washington. Donc, on tenait à faire venir une de ces œuvres extérieures. Elle est présentée sur le parvis du musée. Donc, sur le parvis, à l'entrée, quand le visiteur arrive, il est accueilli par Mickey Mouse, effectivement.
96 œuvres de 82 artistes qui proviennent de tous les horizons et qui couvrent le 20e siècle et le 21e siècle.
Oui, l'œuvre la plus ancienne date de 1914, donc le début de la Première Guerre mondiale, et les plus récentes datent de 2020. Donc, on a aussi des œuvres très, très récentes, là, et on couvre l'ensemble de l'art moderne, contemporain, et aussi le plus actuel là, aux États-Unis.
Ah oui, est-ce que vous pouvez nous donner des noms d'artistes parmi les artistes les plus peut-être populaires, en tout cas ceux qui nous ont donné des chefs-d'œuvre qu'on peut voir dans le cadre de cette exposition?
Oui, parmi parmi les plus connus, il y en a plusieurs. Il y a Edward Hopper, un artiste, un peintre des années 50, un peintre réaliste qui a créé vraiment des œuvres qui ont frappé l'imaginaire. Sinon, Willem de Kooning, un peintre expressionniste abstrait. Jackson Pollock, qui a inventé le dripping. Andy Warhol, le pape du pop art. Sinon, d'autres artistes moins connus, mais tout aussi intéressants, des femmes notamment, dont Louise Bourgeois, une sculpteur très pertinente, une immigrante européenne, là, qui est à mi-chemin entre l'art d'avant-garde européenne et l'art américain. Sinon, d'autres femmes, les Guerilla Girls, un groupe de femmes noires qui, dans les années 80, commencent à revendiquer une place plus importante pour les femmes et pour les Afro-Américains dans le milieu artistique américain. Donc, c'est vraiment des campagnes, presque de marketing là, autour de la place des femmes dans le milieu artistique. Donc, très intéressant. D'autres femmes, Louise Nevelson, une sculpteur moderniste, Lorna Simpson, une Afro-Américaine qui, dans les années 80, a fait des installations photographiques là, autour du thème, justement, des inégalités, etc.
Ça me semble une exposition vraiment intéressante, passionnante même. Est-ce que ça prend du temps, faire le tour de l'exposition? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'œuvres, beaucoup d'artistes et d'autres activités là, en parallèle.
Oui, ça dépend de vous. Évidemment, on peut toujours aller plus ou moins vite quand on visite une exposition, selon nos goûts, selon nos intérêts. Il y a des panneaux explicatifs pour chacune des œuvres. Donc, les gens peuvent choisir les œuvres qui les intéressent le plus et là, se documenter ou non, s'ils le souhaitent. Je dirais que ça prend entre 1 et 2 heures, oui, faire le tour de l'exposition, parce que c'est une exposition qui est dense, qui est généreuse. Mm-hmm. On voulait présenter le plus grand nombre d'artistes possible pour avoir vraiment un panorama le plus vaste possible. Donc, effectivement, ça prend un certain temps, mais ça vaut vraiment le coup. Tout le monde en ressort très heureux.
Ah oui? Et vous proposez des visites guidées, 3 visites guidées en mode surprise. Qu'est-ce que ça veut dire?
En fait, il y a tellement de thèmes à aborder, oui, de sujets et d'œuvres dans cette exposition qu'on a inventé 3 séries de visites guidées sur des thèmes différents. Donc, il y en a un, par exemple, sur les célébrités, que ce soit sur les célébrités comme artistes ou les célébrités représentées dans certaines œuvres. Par exemple, on peut voir un portrait de Barack Obama, par exemple, des choses comme ça. Alors, le thème des célébrités, alors c'est une visite spécifique qui porte uniquement sur ce thème où l'on aborde certaines œuvres. Et donc, 2 autres thèmes aussi que je laisse en surprise.
Okay.
Effectivement, que le visiteur vient, il veut prendre une visite guidée, il a plusieurs options. Et là, il ne pourra pas voir toutes les œuvres à travers sa visite, mais ce sont des visites orientées à partir de thématiques spécifiques.
OK. Est-ce que c'est une idée marketing pour que les gens reviennent?
Effectivement, il est possible de faire 3 visites différentes, donc de venir 3 fois. À ce moment-là, c'est préférable de devenir membre du musée, comme ça, vous bénéficiez d'un rabais significatif.
Ah oui, hein? Ça vaut la peine.
Effectivement, c'est une exposition tellement riche qu'il y a moyen de la regarder de plusieurs manières.
Et jusqu'à maintenant, est-ce que la réponse est bonne? Est-ce qu'il y a du monde au rendez-vous?
Oui, très bonne. Bon, évidemment, l'offre culturelle est très, très généreuse à Québec cet été.
Ah, oui.
Il y a beaucoup de choses à voir. Oui,
il y a le Festival d'été de Québec en ce moment.
On est très contents. Mm-hmm. Oui, c'est le Festival d'été. On est très contents de cette offre-là. Mais le public est là, le public répond. Il y a beaucoup de touristes à Québec cet été. Ça fait du bien.
J'imagine. Vous proposez aussi un parcours audio. Alors, on peut aussi avoir des informations dans nos oreilles. Comment ça se passe?
Oui, exactement, dans notre téléphone, dans les téléphones, mm-hmm, intelligents, on peut télécharger une application. Et là, effectivement, il y a des commentaires additionnels sur certaines œuvres dans ce parcours audio. Les gens, des fois, préfèrent voir ce parcours plutôt que lire les textes. Sinon, quand je parle de contenu additionnel, c'est qu'on a invité un des chercheurs de la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM, donc l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand, le directeur par intérim, M. Cloutier-Roy, qui a écrit certains commentaires, donc qui met les œuvres en parallèle avec les réalités politiques là, et sociales là, les plus actuelles là, des États-Unis.
Ah, ouais.
Donc, il y a cette dimension-là, audio, à travers vraiment le parcours d'un spécialiste de la politique et de l'histoire américaine qui met les œuvres en contexte, tout simplement. Le but de notre exposition, c'était toujours d'illustrer comment l'histoire sociale, l'histoire culturelle, l'histoire politique des États-Unis a joué un rôle dans la création artistique. Comment la création artistique est liée à l'histoire. Les, mm-hmm, artistes ne vivent pas dans un autre monde, hein, ils vivent dans le monde réel. Et donc, ce spécialiste-là nous aide à mettre la création artistique en contexte.
Et André Gilbert, vous avez créé, en fait, c'est sous votre direction qu'un catalogue a été créé. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce catalogue? L'entièreté des œuvres qui sont présentes au musée?
Oui, toutes les œuvres de l'exposition sont reproduites, évidemment, dans le catalogue. Et il y a aussi, bon, le catalogue est structuré de la même manière que l'exposition, en fonction des 7 thèmes. Alors, pour chacun des thèmes, il y a une introduction assez substantielle sur le thème. Et par la suite, chacune des œuvres est précédée d'un commentaire, donc, qui nous permet de voir la démarche de l'artiste et de voir comment l'œuvre, faire le lien, finalement, encore une fois, entre l'art et la politique. C'est ce qu'on essaie de faire tout au long de ce catalogue.
Et je voulais aussi vous parler d'une sélection littéraire de livres jeunesse qui a été donc choisie, une sélection qui a été faite pour cette exposition. Comment vous avez fait le choix de ces livres?
La boutique fait toujours une sélection de livres en lien avec la thématique qu'on présente en
salle. Ah, d'accord.
Donc, il y a le catalogue, bien sûr, qui est le livre principal, le catalogue officiel de l'exposition, mais il y a toujours une sélection de livres, livres adultes et livres jeunesse. Et dans ce cas-là, bon, c'était assez facile, je pourrais dire. Vous savez comment les États-Unis, c'est un sujet vaste, un sujet immense. Donc, il y a beaucoup de livres à la fois sur l'art, à la fois sur la politique ou la société américaine. Et il y a même beaucoup de livres pour enfants. Donc, des livres, par exemple, sur les grands personnages de l'histoire afro-américaine. Vous savez, les Harriet Tubman ou des gens comme ça qui ont lutté contre l'esclavage. Il y a des livres pour enfants sur ce thème-là, vraiment, où là, les enfants peuvent apprendre cette histoire-là. Des livres pour adultes aussi, de toutes sortes. Donc, on essaie toujours d'avoir une sélection de livres reliés vraiment au thème de l'exposition. Comme ça, les gens voient l'exposition, mais aussi les gens qui s'intéressent peuvent se documenter davantage et repartir avec quelque chose de significatif là, pour poursuivre leur réflexion.
Alors, en montant l'exposition, en la construisant, vous avez pensé aux enfants. C'est une exposition qui s'adresse à toute la famille?
Oui, à tous, vraiment. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Et on peut avoir une vision savante ou intellectuelle d'une exposition comme celle-là, mais sinon, pas du tout. Même les enfants, c'est des œuvres spectaculaires. Vous savez, l'art américain est reconnu aussi pour ses grands formats, pour ses formats très spectaculaires, là, des œuvres englobantes, presque immersives. Et donc, c'est facile pour les enfants aussi, ou même ceux qui ont peu de connaissances en art, d'être impressionnés par certaines de ces œuvres-là.
Et est-ce
il y a une robe, par exemple, il y a une immense robe rouge en velours rouge dans l'exposition qui fait plus de 20 mètres de long.
Ah oui.
On n'a pas besoin d'être très savant pour être impressionné là, par un vêtement comme celui-là. C'est absolument hallucinant.
Et il y a aussi l'œuvre d'Andy Warhol, les lèvres de Marilyn Monroe. Ça aussi, c'est quelque chose d'impressionnant.
Oui, effectivement, ben, c'est un tableau qui fait 4 mètres de large, donc quand même, 4 mètres, là, on est dans des formats
Think big.
Conséquents. Oui, effectivement, aux États-Unis, c'est ça. Les Américains sont ceux qui ont inventé le grand format là, en art contemporain. Maintenant, on est habitué en art contemporain de voir des œuvres de grand format là, dans les galeries, dans les musées.
Ouais.
Mais c'est vraiment aux États-Unis, au cours des années 50, que ces artistes-là ont inventé le grand format, l'ont mis en valeur, l'ont mis en vedette. Et donc, l'exposition rend compte de ça aussi, bien évidemment.
Pensez-vous qu'il y aura des États-Unis qui viendront visiter cette exposition à Québec?
Ben, il y en a. On a beaucoup de touristes de la côte est américaine l'été à Québec. Alors, j'espère qu'ils voudront voir l'art de leur pays. Mais sinon, des fois, ils préfèrent voir autre chose. Eux sont plus habitués de voir ces œuvres-là, je dirais, chez eux, dans les musées. Mais pour nous, c'est assez rare d'avoir une collection de cette importance, de cette qualité. Notre partenaire, le Hirschhorn Museum, est un musée majeur. Il est moins connu au Québec, mais c'est un musée très important. C'est un musée qui reçoit plus d'un million de visiteurs par année.
Ah oui.
Il est à Washington, sur le National Mall. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Washington,
oui.
Mais il y a tout un ensemble de musées qui font partie d'une grande institution qui s'appelle la Smithsonian Institution.
Oui.
Et dans le fond, la Smithsonian, c'est une vingtaine de musées qui sont regroupés ensemble. C'est des musées d'État, donc c'est fédéral, c'est le gouvernement américain, c'est la collection nationale des États-Unis qui est regroupée en différents thèmes. Alors, sur le Mall, vous avez le musée des Amérindiens, vous avez le musée de l'espace, et vous avez ce musée-là, le Hirschhorn, qui est consacré à l'art moderne et contemporain. C'est donc la collection nationale américaine. Et c'est une collection de très, très haute qualité.
Alors, une autre bonne raison pour se rendre à Québec, aller voir cette exposition « America entre rêve et réalité ». Ça se passe au Musée des beaux-arts du Québec jusqu'au 5 septembre. Est-ce qu'il y aura des supplémentaires?
Ah, je ne sais pas.
Alors, on va en profiter pendant que ça va passer, juste jusqu'au week-end de la fête du travail, hein, si je ne m'abuse.
C'est bien ça.
André Gilbert, commissaire d'exposition au Musée national des beaux-arts du Québec, responsable de cette exposition, America, si j'ai les bonnes informations?
Oui, effectivement, nous étions deux commissaires, donc un commissaire du Hirschhorn, une femme du Hirschhorn, Kate Markowski, et moi ici à Québec, qui avons conçu et choisi les œuvres et rédigé le catalogue d'ensemble.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon été.
Ça fait plaisir. Merci.